Donc là, pour cette prochaine rencontre, on l'a intitulée « Nature, paix des jeux ». Je vous en prie. Avec cette, cette question dont finalement la pandémie a s'est fait un peu l'écho avec des succès comme Animal Crossing, mais on a le sentiment parfois que les animaux, ce qu'ils apportent dans les jeux vidéo, c'est la paix, c'est une forme peut-être plus apaisée de jeu, c'est les Wholesome Games. Et avec donc Vincent Berry, Cédric Babouche et de nouveau Erwan Cario, on va essayer de se demander si les animaux apaiseront le jeu vidéo.
Merci, merci. Le sujet est vaste. Au-delà de cette nature qui peut pacifier le jeu vidéo, on va finalement parler de beaucoup aussi de cette nature en tant que décor, de cette nature à contempler, de cette nature à dont on peut profiter et visuellement et émotionnellement à l'intérieur d'un jeu vidéo. Je vais d'abord présenter mes interlocuteurs qui sont avec moi. Je vais commencer avec Cédric Babouche.
Bonjour.
Donc vous êtes toujours dans la bande dessinée et l'animation principalement, mais ces derniers temps donc vous êtes lancé, vous avez fondé un studio, un je ne sais quoi. C'est le nom du studio, un je ne sais quoi, très beau nom par ailleurs, pour produire votre premier jeu vidéo qui s'appelle Dordogne. Alors il y a sans doute pas mal de gens qui savent peut-être de quoi on parle parce que la première diffusion au premier semestre 2020 de ce qu'on appelle les trailers, les teasers, les bandes annonces, en fait, a été très très bien accueilli. Je résume rapidement. Mimi, une jeune femme de 32 ans qui explore la maison de sa grand-mère récemment décédée et avec un système d'énigmes, voilà, va se remémorer la région de son enfance, qui est le titre du jeu. C'est bien ça. Comment est-ce qu'on part sur cette idée de faire un jeu qui s'appelle Dordogne ? Déjà rien que sur le nom.
On part déjà par envie, par historique. Moi, j'ai grandi... j'ai passé tous mes étés dans le Lot, qui est donc vraiment attenant à Dordogne. On part sur un sujet comme ça aussi, tout simplement, parce que je pense, comme la plupart des gens ici, pour diverses raisons, on a des souvenirs qu'on a envie de faire vivre. On a des souvenirs qui sont parfois, qui sont souvent idéalisés. Et la nature y joue beaucoup, principalement. Et donc, moi, dans mon travail, depuis que je suis professionnel, la nature a toujours été centrale, que ce soit dans la BD, dans l'animation et maintenant dans le jeu vidéo, c'était central. Et donc, je suis rapidement venu à ça. Et puis après, pourquoi Dordogne et pourquoi j'ai voulu absolument garder ça? Déjà parce que c'est un nom qui, internationalement, est très reconnu. Et très étrangement, en France, on rigole quand on voit « Ah, Dordogne !» Mais en France, on oublie qu'on n'est que 65 millions et qu'il y a des milliards de gens dans le monde entier qui sont... extrêmement intéressé par ce département, cette région, et j'avais envie de parler à plus que de 65 millions de personnes. Voilà.
Il faut de l'ambition, dis donc, pour créer un jeu vidéo.
Voilà, exactement, exactement.
On va revenir hein, évidemment sur voilà cette représentation d'Ordogne. Alors, je vous conseille hein, d'aller voir les premières images qui sont disponibles. Voilà, la particularité, c'est cette aquarelle. Modélisé en 3D. Enfin, on va y revenir. À côté de moi, Vincent Berry. Bonjour, Vincent.
Bonjour.
Donc, vous êtes maître de conférence. Alors, j'espère que mes notes sont bonnes à l'Université Paris 13. C'est pas tout à fait.
Non, ça a changé de nom, en fait. On est passé sur un truc très prestigieux, Sorbonne Paris Nord. Mais...
Ah oui, d'accord.
Et mais ça, c'est. Voilà. J'avais proposé MIT Paris Nord, mais ils n'ont pas voulu.
Et donc, vous êtes sociologue. Votre sujet, entre autres, c'est les jeux vidéo, les joueurs. Les cultures ludiques contemporaines. Alors c'est assez marrant d'en avoir. On a entendu parler il y a tout juste quelques minutes, vous avez participé à la fin du game. Donc, ce livre un peu très collectif, une douzaine de chercheurs, je crois, qui ont travaillé dessus, sur les pratiques du jeu vidéo en France. On va y revenir aussi, parce que finalement, ce rapport contemplatif à la nature, au paysage et finalement à ce que propose le jeu vidéo, ça rentre aussi dans ces recherches-là. Je reviens à vous, Cédric Babouche, sur comment est-ce qu'on... Parce que, alors, je précise quand même que Dordogne n'est pas sorti, ne va pas sortir demain.
Non, non plus.
C'est 2022, c'est ça ?
Ouais, fin 2022, début 2023, oui.
D'accord. Donc, Mais comment est-ce qu'on représente la nature quand on se lance dans la production d'un jeu vidéo ? Quelles sont les questions auxquelles on fait face, déjà, pour cette représentation ?
Alors, les questions auxquelles on fait face, je vous avouerai que je m'en pose assez peu, parce que depuis que je suis tout gamin, je fais ce qu'on appelle de l'aquarelle en plein air, enfin sur le motif, de la peinture sur le motif. Et donc, pour moi, la représentation de la nature est centrale dans tout ce que je peux faire. Donc, je suis plus vraiment en train de me demander ce sur quoi je travaille. Elle fait intimement partie de moi. Et comment dire, et donc le travail à l'aquarelle est venu assez naturellement, d'autant plus que l'aquarelle a cette force d'être un médium très spontané et en même temps très très compliqué. C'est quasiment le médium le plus compliqué, hein. Quand quelque chose est posé sur papier, on ne peut plus l'effacer. Et donc je trouve que la représentation et les réflexions que je peux porter sur la nature, elles sont de l'ordre de l'instantané, c'est-à-dire que vous êtes devant vous, vous devez capter une lumière, vous devez capter une ambiance, vous devez capter, je vais dire quelque chose d'un peu paradoxal, mais vous devez capter du son et vous devez le retranscrire sur le papier avec vos pinceaux. Voilà, comme moi j'approche en tout cas mon métier et le projet que je développe actuellement, je l'imagine comme ça. Après, la modernisation a fait que j'utilise des outils 3D. J'ai toujours eu aussi pour objectif depuis très longtemps, parce que je suis aussi un grand fan de Miyazaki, comme beaucoup d'auteurs de ma génération, et qui ont aussi mis la nature au centre de leur réflexion, au-delà juste de leur représentation, du bien-être que cela procure, mais évidemment aussi des réflexions écologiques. Et ce qui m'a toujours intéressé dans son travail aussi, c'est la modernité qu'il a perpétuellement essayé d'apporter dedans. Pas que dans sa représentation, mais aussi dans les techniques qu'il utilisait. Et quand il a commencé à apporter aussi de la 3D dedans, il a apporté de la modernité dans la perception qu'on pouvait avoir des décors numériques réalistes, on va dire. D'un seul coup, on se dit, tiens, des médiums, qu'on va dire organiques sur le papier deviennent numériques, mais acceptables. Et agréable à regarder. Et voilà un peu moi comment je travaille sur tout ça.
Mais juste pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à explorer le jeu vidéo ? Parce que c'est vrai que vous avez un parcours où l'aquarelle semble naturelle, on va dire, oui. Même dans l'animation.
Ouais.
Et pourquoi justement rajouter, se dire, qu'est-ce que ça va apporter l'interactivité ? Qu'est-ce que vous allez chercher dans cette interactivité ?
Eh bien, alors justement, je ne sais pas. Comment dire Je ne fonctionne pas par jeux vidéo, BD ou animation. Je fonctionne par envie d'un projet. Je le développe, je l'écris, je vais poser des personnages, un univers graphique, et après, je me pose devant et je me dis quel va être le meilleur moyen de le raconter. Et ça peut être une BD, ça peut être de l'animation, et pour le coup, pour Dordogne, c'est devenu une BD, un jeu vidéo, pardon. Mais ça sera aussi un peu une BD et aussi un court-métrage, parce que c'est un projet transmédia. Excusez-moi, j'ai digressé, donc du coup, il faut que je retourne.
Qu'est-ce que vous cherchez justement avec le jeu vidéo ?
Justement, je cherche un autre moyen d'aller à la rencontre des spectateurs que ce que je peux et ce que j'ai pu avoir dans l'animation en tant que réalisateur. Quand on est réalisateur dans le long-métrage ou dans la série, les personnes sont devant les écrans, ils sont passifs, ils prennent l'information, ils en prennent ce qu'ils veulent, ils décident de rester ou de ne pas rester, de s'en aller, etc. Mais ils sont passifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réussir à définir le moment où on va activer de l'interaction, leur donner envie de prendre la main dans cet environnement-là, et qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter, jusqu'où on peut les emmener, et à quel moment on se rend compte que l'interactivité a ses limites et on doit les ramener dans des, allez, on va dire, dans des chemins plus viabilisés, comme peuvent l'être des cinématiques de jeux vidéo. Et moi, c'est là que j'adore, c'est que quand on m'écrit la cinématique, je lis la cinématique et je réfléchis, je me dis, mais non, est-ce qu'on peut pas raconter autrement par une cinématique? Et c'est là que l'enjeu, que enfin, pour moi, c'est là où est le challenge actuel.
Vincent Berry, je voyais, pendant que Cédric Babouche parlait, il y avait cette notion, voilà, d'interactivité, d'action du joueur. Le jeu vidéo est le média de l'action du joueur, du comportement un peu actif du joueur. C'est la grande intuition générale autour du jeu vidéo. Et c'est peut-être la conclusion la plus étonnante, notamment de la fin du game auquel vous avez participé, c'est que le jeu vidéo, malgré l'interaction, génère ce que vous appelez, vous, des engagements faibles, c'est-à-dire on peut être quasi passif, en fait.
Oui, absolument. Oui. C'était un peu le résultat. En plus, j'écoutais d'autant plus que je suis de Dordogne, en fait. Donc je suis allé voir et je me suis dit, voilà, j'étais très sensible aux vidéos. Oui, en effet, c'était un peu l'idée de ce travail collectif de chercheurs. C'est-à-dire qu'au fond, on a une vision qui est tout à fait juste du jeu vidéo comme des dispositifs d'engagement moteur très forts. C'est-à-dire au fond, et c'est même l'histoire du jeu vidéo, c'est de la motricité, de la rapidité, de l'engagement. Et puis on avait ce sentiment quand même que non seulement il suffisait de voir quand même le développement du jeu vidéo depuis les années 80, où effectivement les jeux d'action, tout ça, sont très importants, mais on voit, et je pense que c'est plutôt au tournant des années 90 qu'on va voir se développer des jeux avec des engagements plutôt sur les expériences contemplatives, c'est-à-dire des trucs... on peut penser à Myst, ou des jeux comme ça, ou à Riven, tous ces jeux-là, où on sentait qu'il y avait une dimension cognitive, résoudre des trucs, mais que l'intention quand même derrière, c'était des expériences à faible motricité. Voilà. Et effectivement, on s'est intéressé à ça et on s'est rendu compte que parmi les expériences, quand les gens décrivent leur pratique, même quand on les observe, en fait, le jeu vidéo, c'est pas seulement un engagement du corps permanent, mais c'est des moments, beaucoup de contemplation, alors, parfois aussi de semi-somnolence, c'est-à-dire comme on peut être devant un programme de télé, c'est-à-dire on regarde un peu. Alors ça, moi, je l'avais vraiment vu aussi, j'avais fait une enquête dans les années 2000 sur les MMORPG, c'était la grande mode. Alors à l'époque, c'était Dark Age of Camelot et puis un autre jeu qui est plus connu quand même, qui était World of Warcraft. Et donc, je faisais des enquêtes sur qui sont les joueurs et puis je leur demandais de décrire ce que c'était qu'une bonne partie de jeu. En fait, la question classique qu'ont fait les sociologues du jeu, c'est quoi une bonne partie de jeu, c'est quoi une mauvaise soirée de jeu et tout ça. Et en fait, dans ces questions-là, on avait très souvent des descriptions d'engagement très faible. C'est-à-dire de gens, alors par exemple, certains qui pouvaient vous dire... moi, mon plaisir, c'est de crafter. Donc, pour ceux qui voient, le craft, c'est vous cliquez sur des trucs pour fabriquer des objets, puis il y a une barre comme ça. Enfin, vraiment très lente de progression. Et c'était j'ai une bonne partie de craft, une bonne soirée de jeu. Et puis d'autres qui vous disaient, moi, mon plaisir, alors je l'avais vu aussi, c'est de pêcher, par exemple. C'est de rester. Alors, on l'avait vu aussi dans une enquête auprès d'enfants qui jouaient à Animal Crossing, notamment. Et donc, leur expérience, la bonne soirée de jeu pour eux, c'était j'ai pêché, j'ai visité des nouvelles choses. Et donc, on voit bien qu'effectivement, ce qu'on appelle les engagements faibles, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais engagements, ça veut dire que c'est des engagements faibles en termes de motricité et que l'expérience, elle est plutôt esthétique, plutôt dans le regard, dans l'exploration, dans la découverte d'espace et de choses comme ça. Donc, effectivement, c'était une des conclusions du bouquin.
C'est-à-dire que cette interaction propre aux jeux vidéo, qu'on met tout le temps en avant sur l'action du joueur, finalement, ce que décrivait Cédric Babouche sur les scènes où on admire et les scènes où on agit, sont moins séparées qu'on pourrait penser, en fait.
Bah oui, mais en fait, il y a deux promesses. Le jeu vidéo, c'est toujours défini comme deux promesses, celui de l'interactivité, la fameuse interactivité, et on se rend compte que... elle est parfois très limitée, ça convient bien. Alors c'est là où après les sociologues interviennent, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire c'est pas n'importe quel public, c'est pas tous les publics, c'est pas voilà. Mais il y a cette promesse de l'interactivité forte et on se rend compte que non. En fait, il y a non seulement des produits avec des interactifs faibles qui marchent très bien, et puis même des jeux qui sont détournés pour avoir des interactivités faibles. Et la deuxième promesse qui est jamais complètement tenue, c'est celle de l'immersion. C'est-à-dire on va vous dire Le jeu vidéo, en fait, c'est l'immersion, c'est l'arrachement. Et puis, c'est pareil, quand vous faites des enquêtes vraiment empiriques, vous regardez, vous vous rendez compte que bah, les gens, les joueurs, les joueuses, regardent un peu la télé, discutent avec quelqu'un, font autre chose en même temps. Et donc, l'intention, elle est parfois très, très, très pleine, en fait. Mais elle est souvent, ce qu'on dit, très flottante aussi. C'est-à-dire, on interagit entre deux trucs. Donc, les expériences de jeux vidéo, souvent, c'est pas que des effets... Enfin, la vision, parfois, des designers, qui est normale, hein, qui est logique, c'est de dire, oh, c'est moi qui construis l'expérience. Ce qui est vrai, ils construisent des objets, des dispositifs pour vous engager de telle ou telle façon, parfois pour vous accrocher avec des loots ou des trucs comme ça. Clairement, il y a des effets. Mais empiriquement, en fait, on se rend compte que toutes ces expériences-là, elles sont fortement parasitées par le contexte, c'est-à-dire le fait de jouer la nuit, de jouer en cachette, comme la lecture, en fait. Voilà. C'est d'ailleurs comme ça qu'on ouvre le bouquin de La fin du game, en citant l'analyse de Proust sur la lecture, en montrant que son expérience de lecture, c'est parce qu'il était caché, enfin, il y avait un moment et une situation très particulière. Donc l'expérience, elle est flottante, elle est à la fois esthétique, à la fois motrice, mais jamais complètement définie par le dispositif.
Quand on regarde... et les premières vidéos de Dordogne, et même ce que vous postez des fois sur votre compte Twitter, notamment des petits sketchs, des petits extraits vidéo de travail, de choses comme ça, on a l'impression que ce côté contemplatif, ce côté où on se promène dans une aquarelle de nature, finalement, c'est le... J'allais pas dire un fantasme, parce que c'est en train de se concrétiser, mais il y a ce côté de promenade... Il y a ce rythme de la promenade, en fait, de la ouais. lenteur, finalement, dans votre projet.
Oui, et c'est très intéressant parce que quand je présentais le projet, parfois, on me disait, mais comment vous allez faire? Parce qu'avec cette technique, vous ne pouvez pas faire un open world. Et je dis, oui, c'est vrai, mais moi, mon objectif, ce n'est pas de faire un open world. Pour moi, mon objectif, c'est de recréer des sensibilités. C'est-à-dire que dans l'espace de, là, vous voyez, dans l'espace de 2 mètres carrés, il y a 50 000 trucs à faire. J'ai pas besoin d'un open world pour aller faire passer des sensibilités. Si j'ai un petit jardin potager où je peux aller cueillir des plantes, mettre de l'eau, en même temps parler à ma grand-mère, et puis au loin j'entends quelqu'un qui fait de l'écho de l'autre côté de la vallée, ma mission elle est remplie. Évidemment, narrativement, il y a beaucoup plus de choses à greffer dessus. Mais à l'arrivée, on n'a pas... je suis un grand fan de Zelda Breath of the Wild, j'adore, mais moi ce qui me plaît le plus presque dans Breath of the Wild, c'est la quantité de petites choses que je peux faire à plein d'endroits différents et en permanence. Et pour moi l'expérience elle est là, c'est-à-dire que je veux, sur le narratif, il y a le narratif qui est le fil rouge, qui va évidemment porter l'ensemble de l'histoire, mais la découverte des environnements et la sensibilité que je veux faire passer, elle va passer par des petites choses, se dire, ah tiens, il y a un arbre, et qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux grimper dedans? Quand on est une enfant et qu'on a été habitué à grandir dans la nature, oui, on a envie de grimper dans des arbres. Donc il faut donner cette possibilité-là. Il y a des cailloux par terre, est-ce qu'on peut faire des ricochets? Essayons de faire des ricochets. Il y a de l'eau, essayons de se baigner. Si par contre j'ai de l'eau et que j'ai que des cailloux, il faut que je saute de caillou en caillou pour aller de l'autre côté, eh ben, je ne suis pas dans la sensibilité, je suis presque dans le punitif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Et il y a, vous avez dit aussi qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la sensation et des souvenirs. C'est-à-dire que cette nature que vous représentez dans Dordogne, il y a, je reviens sur cet aspect contemplatif aussi, c'est-à-dire que visuellement, c'est essayer de se reconnecter, de trouver une sorte de point commun entre les personnes qui vont participer au jeu.
Oui, c'est ça. En fait, moi, ce qui m'a fait plaisir quand il y a eu le reveal du teaser, c'est que... Alors évidemment, quand on peint et que, quand on se base sur ses souvenirs, on est dans une forme d'idéalisation du sujet, du propos. Et c'est le cas. Enfin, je veux dire, voilà, moi, c'est basé énormément sur mes souvenirs d'enfance. Et en fait, quand il y a eu le reveal, j'ai eu beaucoup de gens de la Dordogne qui m'ont dit « Oh, c'est génial, j'y suis, quoi ». Mais du coup, je me suis demandé, mais est-ce qu'ils y sont ou est-ce qu'ils sont eux-mêmes dans leurs propres souvenirs, c'est-à-dire dans leur propre idéalisation de la Dordogne? C'est ça qui m'a intéressé. Et en fait, on se retrouve vraiment à mi-chemin entre les deux. Du moment que j'ai envie de vous dire, du moment qu'on coche les cases, bord de rivière, falaise, belle lumière, on y est. Maintenant, c'est savoir, encore une fois, se regreffer sur l'inconscient collectif, c'est-à-dire sur toutes les choses communes qu'on a pu avoir, qu'on peut avoir vécues, et pas que en Dordogne. C'est-à-dire, des ricochets, on n'a pas besoin d'être en Dordogne pour en avoir fait. Nager, on n'a pas besoin d'être là-bas. Grimper dans un arbre, on n'a pas besoin d'être là-bas. Mais c'est un lien collectif. Évidemment, tout le monde ne l'a pas fait. Mais il y a quand même toujours beaucoup de liens qui vont au-delà de la Dordogne et qui permettent de créer cette sensibilité qui est liée au souvenir.
C'est quelque chose qu'on retrouve, Vincent Berry, dans les jeux, dans ce qu'on disait sur les engagements, sur cette expérience un peu de contemplation. C'est quelque chose, là on voit bien, dans Dordogne, qui fait envie. On a envie de faire des ricochets et voir et de rester face à un arbre, le contempler. Mais c'est finalement quelque chose qui est commun à énormément de jeux vidéo. Vous avez évoqué, Cédric, les open world. Face à un open world, on contemple beaucoup, en fait. On est toujours un peu dans la visite, dans l'exploration, dans quelque chose qui est très loin aussi de la proposition primaire du jeu lui-même.
Oui, absolument. Enfin, c'est une des formes d'expérience du jeu. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir quand c'est ce qui était un peu évoqué là, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de l'intent. Parce qu'il y a des jeux, effectivement, l'open world, on voit bien qu'il est pensé pour produire ce type d'expérience-là. C'est-à-dire qu'on va vous mettre. On va vous mettre plein de détails, on va vous mettre des easter eggs, des choses comme ça, des trucs cachés dans les troncs d'arbres et tout ça. Donc on voit que ces formes d'expérience, d'engagement presque esthétique, en fait, elles sont pensées, elles sont designées. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quand elles le sont sur des univers qui ne sont pas prévus pour ça, c'est-à-dire des trucs où... ou je sais pas, des trucs à la Quake, quoi. C'est-à-dire il y a les chouettes décors, mais le jeu en fait vous engage pas tellement à passer du temps, sauf si vous campez, mais et encore on est quand même très attentif à ce qui se passe. Donc oui, alors il y a ça. Alors après, c'est pas dans les enquêtes qu'on peut faire, c'est pas des expériences non plus majoritaires quand même quand les gens décrivent leur expérience de jeu, parce que quand même le cœur du jeu vidéo, ça reste quand même les jeunes autour de jeux relativement très exigeants en termes de motricité. Mais effectivement, on voit se greffer autour. Alors après, pareil, ce que je dis là, ça ne veut pas dire qu'il y a d'un côté... Parce qu'à un moment, les premières enquêtes, on va dire sociologiques, sur les joueurs, fonctionnaient beaucoup par des classifications de joueurs. Donc on avait fait ce qu'on appelait les... Donc ça venait de Bartle, qui est un game designer, puis... Alors, il appelait les achievers, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment, qui veulent faire à 100% le jeu. Vous avez les socializers, enfin, ceux qui sont. Alors, ça marche, c'est vrai que c'était pour décrire, en fait. Et puis, il y avait les explorers, voilà. C'est-à-dire ceux qui jouent à un jeu, eh bien, en fait, ce qui les intéresse, c'est de voir l'ensemble du jeu, les dimensions architecturales, parfois. Alors, c'est vrai que ça marche à un certain niveau pour décrire, mais quand on fait les enquêtes, on se rend compte qu'en fait, tous les joueurs basculent. Ont des transitions de phase, c'est-à-dire qu'ils peuvent être très engagés et puis tout d'un coup arrêter. Donc c'est pas que des profils de joueurs, c'est plutôt des bascules d'expérience dans un même jeu, quoi. Voilà. Donc on peut passer d'une phase d'exploration à une autre.
Et vous disiez, quand on a parlé, vous expliquiez que ce que font les game designers, les designers de jeux, c'est essayer de créer de la tension, c'est-à-dire de créer une expérience engageante ou exigeante aussi, parce qu'il faut, même dans un jeu narratif, des fois il faut faire attention et tout ça, et que finalement les joueurs sont amenés mécaniquement ou par parce que c'est la vie, parce qu'on joue pas forcément dans des conditions où on est ultra concentré avec un casque sur la tête, avec que les joueurs, eh ben, ils se détachent de cette tension, en fait. Ils prennent leur liberté, en fait, avec le jeu.
Oui, complètement. En fait, quand je dis ça, c'est quand on regarde la production mainstream, c'est-à-dire ce qu'on voit justement précisément, c'est des propositions alternatives qui sortent, en fait, du disque. En fait, si vous regardez dans les grosses boîtes, ou ne serait-ce que dans les bouquins de game design, le succès de la théorie de l'expérience optimale, la théorie du flow, qui, je n'arrive jamais à prononcer, de Season Mihaly, je crois, si je le prononce très mal. Donc c'est une théorie en psycho qui dit, en gros, il existe un ensemble d'activités qui nous mettent dans des états de flow, dans des états d'expérience optimale. Ça peut être très bien les mots croisés, ça peut être très bien une peinture, des choses comme ça, mais au fond, c'est il crée un concept, il crée des notions pour caractériser ces moments d'engagement où on est complètement absorbé et tout ça. Et en fait, c'est devenu un moment le Graal dans les bouquins de game design ou dans les formations. J'ai une collègue qui a travaillé sur Vincent Zaban, qui a travaillé aussi sur les formations, et on voit que cette théorie du flow, de l'expérience optimale, elle est souvent enseignée, voilà. Et puis on se rend compte que quand vous regardez effectivement bien sûr qu'on est engagé dans les jeux, mais on l'est jamais complètement. La pratique ordinaire de, je sais pas, de Candy Crush, c'est un engagement entre deux stations de métro. Et puis on lève le nez à un moment où on écoute vaguement ce qui se passe autour. Donc elle est toujours. Non, l'expérience optimale, c'est qu'une forme d'engagement possible. Et on le voit clairement quand on fait des enquêtes ou quand on, dans la fin du game, Mathieu Triclot qui est là a beaucoup travaillé, avait beaucoup apprécié une des vidéos que eux avaient réalisées d'un couple qui joue à Tomb Raider. Vous voyez que entre ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe dans le canapé, c'est très laborieux. Il tombe, il se cogne, sa copine se moque de lui, à juste titre, etc. Donc on voit bien que, en fait, on a une espèce de maître étalon de l'engagement, mais que très souvent, en fait, on est un peu de ça. Alors ce qu'on voit, effectivement, c'est des produits qui vous disent tout d'un coup, moi, je vais vous proposer une expérience qui n'a rien à voir avec l'expérience mainstream de l'expérience optimale. Donc je ne sais pas si Dordogne, il me tarde d'y jouer. Mais s'inscrit là-dedans, mais on voit, je sais pas, mais j'avais vu une proposition d'un jeu qui s'appelait The Mountain, c'était une appli où c'était juste une montagne.
Escalade.
Ouais, et puis en fait, c'était surtout, on voyait principalement une montagne qui évoluait au gré des saisons, donc on voyait des arbres pousser, des choses comme ça, c'était très très agréable. Donc on voit qu'il y a une production, on va dire, indépendante ou contre-culturelle, ou contre-mainstream, qui justement sort de ce truc-là.
Mais là, ça, je reviens, Cédric Babouche, à ce que vous disiez sur les souvenirs, sur le point commun. Finalement, quand on crée un jeu et qu'on se rend compte que la matière avec laquelle on va travailler, c'est les souvenirs communs, c'est l'expérience commune aussi des joueurs, il y a cet aspect contemplatif de rapport à l'image, de rapport à la nature, de rapport au vivant, à ce qu'il va y avoir autour du joueur quand il va se promener dans ses souvenirs. Qui joue aussi beaucoup, vous êtes aussi sur la contemplation dans le moteur de votre création, en fait.
Vous voulez dire je me regarde moi-même en train de créer,
enfin, pas du tout. Ce qu'on sent bien quand on voit la proposition et la vision de Dordogne, les vidéos, c'est qu'il y a une grande partie peut-être de votre de ce que, en tout cas, ce pourquoi les joueurs ont envie de jouer aujourd'hui, c'est de découvrir cette nature que vous proposez, de découvrir nature sublimée, de la contempler, d'être aussi pas forcément dans une démarche hyperactive, mais d'avoir cette impression de voyager à l'intérieur de ces souvenirs-là.
Oui, excusez-moi d'avoir pas bien compris.
Je suis
désolé.
Si vous comprenez pas, c'est bien.
Oui. Alors, comment vous dire je reste persuadé que quand on aime profondément quelque chose, qu'on y croit énormément dans mon cas, comme je vous le disais, j'ai cette nature qui est profondément ancrée depuis que je suis vraiment petit et j'ai vraiment pris beaucoup de temps à l'observer, et c'est assez rigolo parce que ça fait partie des exercices que je donne aussi à mes étudiants. C'est parfois, je leur dis, dessinez-moi un banc et un lampadaire d'imagination, et ils ne savent pas faire. Généralement, 95%, ils ne savent pas faire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas observé. Pourquoi ils n'ont pas observé ? Parce que c'est des objets du quotidien dont on se fiche. Quand je me balade, là, je suis à Paris, j'habite à Bordeaux. J'ai habité à Paris pendant très longtemps, mais depuis tout à l'heure, j'ai la tête en l'air en permanence, parce que chaque détail, chaque chose compte. Et en fait, ça fait partie de l'inconscient collectif d'avoir toutes ces choses-là. Elles sont présentes. On les aime ou on ne les aime pas, mais on sait qu'elles sont là. Et on a toujours, quelque part, quelque chose qui s'y réfère en bien ou en mal. Et moi, j'essaye de me référer au bien, et donc d'aller chercher ce qui, dans la nature, moi, me plaît profondément. Et je me dis, très humblement, si je la représente comme moi, je l'aime profondément, et comme je l'ai toujours observé, ça va peut-être marcher. Après, effectivement, il y a le temps et l'expérience à travers d'autres projets dans l'animation, dans du court-métrage, etc., qui m'ont permis de voir aussi ce qui plaisait. Donc, je ne pars pas complètement dans l'inconnu. Et puis, je m'entoure d'une équipe compétente qui nous permette aussi de recroiser un peu nos points de vue et nous dire, ça, oui, là, on raconte quelque chose. Là, il y a des points de vue qui sont superbes. Ah, ça, en plus, c'est original. Voilà, donc on va chercher ces choses-là. Et l'aquarelle est vraiment quelque chose aussi, j'ai pas envie de dire d'original, mais de différent. Quand j'avais été très surpris de voir des gens mon deuxième court-métrage qui s'appelait Imago avait été à Cannes, et en fait il avait été très remarqué parce qu'il y avait ce mélange entre l'aquarelle et la 3D, Et les gens disaient, mais c'est quoi cette technique? Et moi, je leur disais, mais vous savez, c'est de l'aquarelle, c'est des pigments, ça existe depuis des siècles. Seulement, on l'avait apporté sur un médium différent, plus moderne, qui lui apportait quelque chose de différent de ce qu'on peut avoir que lorsqu'on l'a sur une feuille de papier, dans une exposition, dans une BD. Et c'est ça, moi, que j'ai retenu. C'est, je me suis dit, il y a très clairement une... ce médium-là me permet très clairement d'aider les joueurs, les spectateurs à non seulement rentrer dedans, mais aussi à en profiter plus pleinement. Et dans Dordogne, on va non seulement être en troisième personne et à certains moments clés, passer en première personne pour avoir cette capacité de prendre des photos, d'enregistrer des sons, attraper des mots parce qu'on a un carnet qu'on remplit. Ça aussi, c'est des mécaniques qu'on retrouve dans pas mal de carnets, de pas mal de choses, mais qui ne sont pas toujours liées à du narratif. Nous, on a voulu le faire avec du narratif. Mais surtout, on voulait... selon les endroits, se dire, on veut donner une expérience un peu différente. Le dernier point, et le dernier truc sur lequel je voulais dire, c'est qu'on est souvent en première ou en troisième personne dans un jeu. Et nous, là, on est en train d'expérimenter, on ne sait pas si ça va marcher, donc on commence à le prototyper, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ce film de Miyazaki, donc dans Ponyo, à la fin, il y a de l'eau partout, l'eau est montée très très haut. Et Ponyo, avec le petit garçon, se réveille, ils mettent la tête sous l'eau et ils voient plein de poissons, etc. Et le plan est magnifique. On voit la tête et l'expression des enfants sous l'eau. Et ça, on ne l'a pas dans le jeu. C'est-à-dire que souvent, on est derrière nos personnages, donc on ne partage pas ce moment d'intimité avec eux. Et donc, nous, on a envie d'essayer. On est en train d'essayer de voir... peut-être que d'autres l'ont expérimenté avant nous, mais moi, très honnêtement, je suis dans le jeu depuis 2 ans et j'ai envie d'essayer par moi-même pour voir si ça marche. Donc, on est en train d'essayer de voir si on peut aller travailler sur des points de vue radicalement différents, passer de l'autre côté et du coup, avoir les personnages qui sont en statique, mais jouer avec leurs mains. C'est-à-dire, on a, par exemple, on a les contrôleurs de Switch et avec ça, essayer d'attraper ce qu'il y a sous l'eau, attraper des tétards, voilà. Et d'avoir en même temps le retour immédiat des personnages qui sont contents, frustrés, etc. Être à mi-chemin entre l'histoire narrative, le film, le plaisir de regarder, comme on l'est aussi quand on va en vacances, quand on regarde des gamins qui sont juste épatés par un truc qu'ils ont devant eux. Sauf que dans le jeu, on est tout le temps derrière. Et moi, ça me frustre, peut-être avec une vision de réalisateur, quoi.
Vincent Berry, une des thématiques qui vient souvent dans le cadre du rapport au monde, enfin à la nature, à l'univers qui nous entoure, et qui a été, vous en avez parlé là au tout début, c'est les mondes virtuels. C'est quand on a parlé ces derniers jours, vous m'avez dit être étonné du retour en force de cette thématique des mondes virtuels, des métaverses façon oui. Facebook, parce que il y a cette promesse comme ça, qui est liée aux jeux vidéo, qui est liée au monde virtuel, c'est la promesse de l'immersion. Alors en ce moment, c'est et est-ce que vous y croyez, vous, à cette possibilité d'immerger les joueurs dans des milieux comme ça artificiels qui rappellent la nature ou pas, ou ce genre de...
Alors oui, en fait, cette promesse là, mais là je renvoie aussi quand même, c'est quand même la promesse de la cybernétique aussi, c'est une vieille promesse même de la VR en fait, en disant ça y est, on va y arriver, et puis bon, je pense quand même faudrait vérifier quand même s'il n'y a pas eu un petit impact Ready Player One quand même dans la réactivation de ce truc-là, parce que c'est un truc qui date, en fait, et qu'on voit régulièrement, qu'on a vu dans la production française autour du Second Paris, là, le Deuxième Monde, et puis Second Life, et puis... en fait, c'est une promesse peut-être importante, parce qu'à un certain niveau, elle fait avancer l'innovation, mais elle n'est jamais complètement tenue, en fait. Mmh. C'est-à-dire, dès que vous commencez à regarder ce qui se passe vraiment quand les gens jouent, en fait, vous vous rendez compte que l'immersion, elle est toujours partielle, elle peut être intense hein, par moment. On peut pleurer, on peut s'engager, on peut être... mais elle est comment dire, entre parenthèses. Et donc, oui, j'avoue qu'il y avait ce truc-là. Alors là où c'était très visible, c'est que j'avais travaillé... on avait fait une enquête avec des collègues auprès des enfants, c'était sur les virtual pets.
Ah oui.
Et donc, vous savez, tous ces trucs, alors ça commence avec les Tamagotchi, ça a été évoqué tout à l'heure, non ? J'ai cru voir passer les Tamagotchi. Puis, il y a eu plusieurs succès. Il y a eu Creature dans les années 90, je crois. Il y a eu Nintendogs, évidemment. Il y en a plein, en fait. Puis, dans le cadre d'une autre enquête, je m'étais rendu compte qu'il y avait toute une production de petites créatures en jeu flash. Sur cette enquête auprès des enfants, on regardait un peu les applications. Alors, c'était des 6-10 hein, sur lesquels on travaillait. Et les tablettes et les téléphones des parents étaient remplis de Virtual Pets, Thomas le chat, vous voyez, ce chat-là qui parle tout le temps. Et en fait, alors ça, c'est des pratiques de jeux vidéo qui sont invisibles dans les enquêtes. Mais alors, quand vous regardez juste les applis des parents ou même des enfants quand ils ont une tablette, elles sont très importantes. Et donc, moi, je m'étais intéressé à ça, c'est-à-dire, c'est quoi leur rapport ? Et leur rapport, c'est toujours un rapport de curiosité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le sentiment, parce que c'est pas de l'immersion, mais la promesse des Virtual Pets, c'est toujours de vous dire, vous allez avoir comme l'immersion, c'est-à-dire, on va enfin s'approcher d'un truc, vous allez avoir un vrai animal. Et en fait, l'essentiel, quand les enfants décrivent leur expérience, c'est, mais comme nous, je pense, avec les mondes virtuels, c'est d'abord une curiosité d'exploration de cette promesse-là. C'est-à-dire qu'on regarde, on se dit, ah ouais, c'est intéressant. Et puis à un moment, on voit très vite la limite. Alors dans le cas des Nintendogs et des Virtual Pets, les enfants voyaient très très vite les limites. Et donc cette idée de la reproduction de la nature dans un modèle parfois un peu d'irréaliste, c'est-à-dire il va avoir des vrais besoins, il y a une temporalité qui est dans le jeu, qui est synchrone avec celle du monde réel. Mais dans les faits, les expériences sont, voilà, ça produit de la curiosité, ça produit des petits attachements, mais il n'y a jamais eu la promesse n'a jamais été tenue. Mais c'est pour ça que ce que je trouvais vraiment intéressant aussi dans ton travail, c'était l'idée de ne pas proposer une Dordogne réaliste. C'est-à-dire qu'il me semble que là, il y a un truc très impressionniste, c'est-à-dire de rendre compte d'une vision personnelle de la Dordogne. Et donc, du coup, là, je suis plus curieux que si on proposait de revisiter une Dordogne. Avec Sarlat et ses...
Il y aura du Sarlat quand même, mais...
Ouais, non, mais je veux dire, c'est que si on mettait... Non, mais ce que je veux dire, c'est un Sarlat en
on n'est pas une carte postale, c'est ça qui est
important.
Voilà,
ouais, un truc super réaliste, en fait, je me demanderais, oui, quel est l'intérêt de ça. Donc voilà, il me semble qu'il y a toujours une tension entre toutes ces promesses d'imitation de la nature, ce souci qu'on a de l'explorer, et puis au fond, quand on nous fait une promesse, en tout cas, que c'est la vraie, que c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de dire que c'est pas la vraie Dordogne, c'est une image, un souvenir de la Dordogne, que quand on vous promet un vrai truc, en fait, on est souvent un peu déçu.
C'est-à-dire que les systèmes de simulation, les systèmes, on attend encore si Eric Chahi se met à produire comme ça un système, un écosystème. Moi, je serais toujours curieux, mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est finalement peut-être que revenir à cette vision artistique, à un choix artistique fort comme le fait Dordogne, c'est finalement quelque chose qui peut générer beaucoup plus d'engagement que de promettre comme ça une vie simulée dont on va percevoir les limites tout de suite, en fait.
Oui, c'est un peu ça l'idée, en tout cas. Il me semble que, en tout cas, les propositions... Alors, il y a des choix artistiques qui sont faits clairement dans les productions, mais je trouve que les dimensions un peu toujours réalistes, effectivement, prennent un risque, en fait, de décevoir, toujours important. Enfin, en tout cas, sur les Virtual Pets, c'est toujours, c'était toujours marrant. Puis il y avait une enquête aussi dans les années 90 sur. Parce qu'en plus, ce qui est compliqué, c'est que ce qu'on oublie, parce qu'on parle du jeu vidéo comme d'une expérience esthétique, ce qu'elle est en partie. Mais en fait, c'est une expérience de jeu. C'est-à-dire que, et là, on voit bien qu'il y a toujours une tension entre la dimension ludique et la dimension esthétique. Et alors, pour une autre enquête qu'on avait menée avec les étudiants du master, on est allé... ça vous semblait faire une digression, mais on est allé sur les escape games, qui sont des dispositifs où on vous promet à la fois une expérience esthétique, c'est-à-dire vous êtes immersive, on va vous mettre dans un asile du 19e, des choses comme ça. Et vous allez résoudre une enquête. Et on voit bien qu'il y a une tension entre la dimension, on va dire, esthétique, réaliste, et la dimension ludique, c'est qu'il faut que ce soit jouable. Et c'est là où on voit que c'est tendu. Et on en avait essayé une dans le cadre de cette recherche-là, qui est sur Paris, qui est assez impressionnante en termes de dispositif. Elle est en VR, donc vous êtes dans un vaisseau. Et du coup, on a discuté. Après, on a fait des entretiens avec les Game Masters. Donc, elle marche très bien. Elle est... Vraiment, alors pour une fois, c'était une promesse où, sauf qu'à un moment, si on avait quand même des bras, on se voyait les uns les autres, mais on avait un bras qui, d'un coup, on partait un peu tout ça. Donc il y avait quand même des glitches qui permettaient de. Mais on va dire, l'immersion aux normes d'aujourd'hui est importante. J'imagine dans 10 ans, on dira, oh là, c'était. Mais ce qui était surtout étonnant, c'est-à-dire que la tension de l'escape, c'est que vous aviez. Alors c'était un truc un peu à la Alien, c'est-à-dire Il y a un commandant, je sais pas quoi, qui disparaît. Mais on était tellement pris par l'effet waouh du dispositif qu'on n'écoutait rien des consignes. Et il disait que c'était pas le seul truc. C'est-à-dire qu'on voyait qu'il y avait une tension entre la dynamique du jeu, c'est-à-dire de résoudre une énigme, et puis l'effet, la dimension esthétique. Et donc notre expérience, après en interrogeant Game Master, il disait que c'était pas le seul. C'est un peu la difficulté qu'on a avec cet escape-là, où la dimension esthétique est tellement prenante que du coup la dimension ludique disparaît et les gens n'arrivent pas à finir l'escape, quoi.
Et c'est pour ça nous on a réfléchi à un genre de choses, c'est que justement il faut en permanence avoir des informations du moment où on est dans le jeu. Ça c'est hyper important parce que du coup ça nous permet très rapidement de nous dire si j'ai envie de profiter de rester là, j'y reste là parce que quoi qu'il arrive je sais à quel endroit je dois me regreffer sur la trame principale.
J'ai une question que je trouve. Enfin, alors, j'ai refait l'historique de l'annonce de Dordogne. Un moment, quand j'étais dans un niveau d'historique, je m'attendais à avoir le jeu dans quelques semaines parce que les premières annonces, c'était il y a un an et demi, c'était prévu pour 2021. Ouais, et là, on parle 2022-2023. Ouais, ouais. C'est pas du tout une critique parce que j'aime bien quand les jeux sont bien finis. Mais là, je me dis aussi, c'est que l'annonce, quand vous avez présenté le jeu, et la réaction un peu unanime à cette présentation, ça crée de l'attente, ouais. Ça crée peut-être une ambition renouvelée. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez senti, parce que vous avez présenté quelques secondes finalement du jeu, mais qu'est-ce que ça a généré comme attente de la part des joueurs ? C'est-à-dire les joueurs, ce que vous avez, des joueurs et des joueuses qui vous ont dit « Ok, j'ai envie de jouer à Dordogne parce que j'attends ça, j'attends ce genre de choses, etc. » Vous avez généré ce genre de...
De toute façon, c'était assez simple hein, parce que l'annonce a été faite pendant le premier confinement. Donc, quand est-ce que ça sort ? J'ai envie de me promener là-bas. c'était « Oh, j'ai trop envie de grimper sur les rochers comme elle. Oh, j'ai envie de lancer des cailloux dans l'eau. Enfin, » c'était des attentes qui étaient très simples, en fait. C'était pas... À aucun moment, on m'a dit « Waouh, c'est quoi l'histoire ?» À aucun moment. Ça a été très orienté sur. Oh, il y a eu aussi beaucoup, énormément de questions autour de l'approche technique, surtout et de l'approche artistique. Comment c'est fait ? J'ai eu une pelletée de magazines qui m'ont demandé est-ce qu'on peut faire un tutoriel autour de Dordogne et tout. Alors que c'est une technique qui est simple comme le monde. Qui est très, très. Une fois qu'on la connaît, elle est hyper simple. Sauf que moi, j'avais pas envie déjà de dire que c'était trop simple. Donc je leur disais c'est de la sorcellerie. Et puis, oui, j'en parlerai plus longuement quand on se rapprochera de la sortie. Et puis, et les gens qui me connaissent un peu, ils me disaient Cédric. Parce que. Encore une fois, c'est pas une technique qui est compliquée. Ce qui fait la différence par rapport à la technique, c'est la peinture qui est dessus. Donc c'est l'artiste qui est derrière. Voilà.
Mais que finalement, les gens, ils avaient envie de en Dordogne dans votre jeu.
Ils ont envie. Mais pour répondre à votre question, pourquoi il y a eu des révélations, un reveal aussitôt, que le jeu arrive aussi tard, je vais le dire parce que ça intéresse forcément les jeux. Mais quand on crée un projet indépendant comme ça, qui est un peu en dehors des cases, on va dire, il faut pouvoir le financer. Pour pouvoir le financer, il faut créer de l'intérêt. Et des fois, on crée des teasers, alors que le jeu n'en est qu'à ses balbutiements. Il y a des réflexions autour des crowdfunding. Est-ce qu'on lance du crowdfunding en amont pour se préfinancer, etc. Et puis, en fait, quand on fait du teaser comme ça, on montre aussi que le projet est vivant. Et ça crée de l'intérêt de la part des publishers. Et voilà. Et en fait, des fois, c'est plus quelque chose pour tendre la main, en fait.
Mais ce qui était intéressant, c'est que les joueurs et les joueuses, s'il y a aujourd'hui autant d'attentes sur une proposition comme Dordogne, c'est qu'ils ont envie d'aller en Dordogne dans votre jeu avec votre représentation de cette Dordogne.
Moi, le meilleur compliment qu'on m'a fait dessus, c'est s'il vous plaît, n'envoyez pas trop d'images. On n'a pas envie d'avoir trop de monde en Dordogne. Voilà. Et moi j'étais merci quoi.
Vous en dites surtout contre les Anglais parce qu'ils sont quand même très anti-anglais.
Ouais. Enfin, mais grâce aux Anglais malgré tout ils ont rénové sacrément bien la Dordogne.
C'est une blague.
Je sais bien.
J'aime beaucoup les Anglais.
C'est traduit, c'est sur Facebook.
Je loue une maison à des Anglais.
Merci beaucoup. S'il y a une ou deux questions éventuellement. Non, il n'y a pas le temps.
Bon, voilà.
C'est pas grave.
Je suis obligé d'être le méchant qui fait couper pour essayer de respecter le timing, mais merci beaucoup à tous les trois. On va sur un deuxième intermède. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Catherine pour un autre partenaire qui nous tient très à cœur, qui est Science X Games de Polytechnique. Peut-être Catherine, puisque tu as plusieurs casquettes, ça me fait penser, je viens moi de revenir là de la BPI où du coup est le reste du festival, et on est en train de... Il y a les jeunes créateurs d'un jeu, d'une petite histoire narrative sur téléphone, qui s'appelle Bulle. C'est absolument extraordinaire, en vrai il faut aller la voir. Alors vous avez deux options, vous allez à la BPI pour la voir et ils sont là, et vous avez l'occasion de discuter avec eux, ou alors vous sortez votre téléphone après les conférences pour rester concentré sur le contenu, évidemment, et vous téléchargez directement la petite application, ça s'appelle Bulle, et c'est fantastique. Catherine, c'est à toi.
Merci beaucoup Nathanaël, et ben je ne peux que dire ça, Bulle c'est à voir, mais c'est aussi à vivre, puisque c'est interactif. Donc bonjour à tous, je me présente, je suis Catherine Roland, je suis chef de projet au sein de la chaire Sciences et Jeux Vidéo, qui est à l'école polytechnique grâce au mécénat d'Ubisoft, et je remercie donc Nathanaël et toutes les équipes de ce superbe événement Press Start, qui est super bien organisé, avec vraiment des conférences et puis plein d'événements, comme tu viens de le dire, extrêmement motivant et extrêmement intéressant à suivre. Donc j'espère que vous serez nombreux effectivement à regarder ça aussi en replay. Ça me donne aussi l'occasion de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette chaire Sciences et Jeux Vidéo, et surtout le studio un peu atypique qui a pris sa place, atypique parce qu'il est en résidence dans un laboratoire de recherche. Donc un centre de recherche. Alors peut-être pour démarrer, je vais essayer de pas être trop longue, pour démarrer, vous dire qu'est-ce qui a donné naissance à cette idée de créer une chaire. Déjà, l'idée de départ, c'était vraiment de faire un jeu pour populariser une science complexe. Et la science complexe en question, c'est la physique des particules. Je pense que je vous fais rêver tout de suite quand je vous dis ça. Et justement, l'idée, c'était grâce au jeu, grâce aux mécaniques, grâce à la grammaire du jeu, amener des gens qui auraient pensé que la science n'était pas pour eux, à découvrir l'univers que ça peut être, et vraiment en vivant une expérience complètement ludique. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais bien sûr, quand on a une telle idée, comment on fait ça? Comment on aborde la science, qu'on la rend accessible à tous, en développant un jeu? Et qui dit développer un jeu, ça dit aussi trouver des financements. Et c'est donc en cherchant des financements pour créer ce jeu qu'est arrivée l'idée de la chaire, et à travers des rencontres avec des personnes, notamment chez Ubisoft, qui était sensible à notre approche, que l'idée de la chaire est née, autour de trois credos, puisque de discuter de cette chaire, l'idée était aussi d'élargir un petit peu les missions qu'elle pourrait mener. L'idée des trois credos, c'était vraiment d'apporter plus de science dans les jeux. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est pour relever les défis qui ont déjà été listés aujourd'hui. C'est également... Également d'apporter, enfin d'acculturer et peut-être de former encore des professionnels du jeu vidéo et d'éduquer par le jeu vidéo. Donc peut-être que vous avez besoin de savoir ce que c'est qu'une chaire de mécénat. Une chaire de mécénat, c'est donc proposer un programme d'activité, de recherche et de formation avec l'aide d'un mécène, mais également pour relever des enjeux qui à la fois sont utiles pour l'école, l'établissement dans lequel est installée cette chaire, mais également sur des domaines liés aux activités du mécène. Pourquoi une chaire qui relie science et jeux vidéo? Donc on le sait tous, il y a des liens très forts entre la science, les sciences et le jeu vidéo. Un exemple simple, c'est que la science utilise souvent le jeu pour illustrer ces avancées, notamment les avancées technologiques, mais on voit aussi que le jeu, et on en a vu des exemples aussi dans les discussions aujourd'hui, propose justement pour une immersion toujours plus grande pour le joueur de relever des défis scientifiques, autant pour les sciences dures que pour les sciences humaines, on va dire, comme tous les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Alors peut-être pour entrer un petit peu plus dans le détail, je voulais vous parler des missions qu'on s'est donné au sein de la chaire. Donc une première mission qui est de la transmission. Donc je vous évoquais l'idée de départ qui était de développer un jeu sur la physique des particules. Et donc nous sommes en train de développer ce jeu. On est en production maintenant de ce jeu. Donc un jeu, comme je vous le disais, qui veut éveiller la curiosité de ceux qui pensent que la science c'est pas pour eux ou qui sont passés à côté de la science. Et tout ça vraiment pour la rendre accessible et fun. Donc ça, c'est une première activité. La deuxième, c'est autour de la formation. Donc nous, au sein de l'École Polytechnique et de l'Institut Polytechnique de Paris, qui est donc le consortium d'écoles qui s'est regroupé, nous proposons un parcours d'enseignement autour du jeu vidéo avec différents éléments, donc des cours pour apprendre à créer des jeux vidéo, connaître et utiliser les outils pour le faire, s'intéresser aussi aux enjeux de l'intelligence artificielle appliquée aux jeux vidéo, proposer des stages et aussi proposer une école d'application, puisque finalement au sein de Polytechnique c'est une école généraliste qui forme des théoriciens et ils vont dans des écoles d'application et cette année, à cette rentrée, c'est la première fois que deux étudiants vont aller à l'ENGMIN, l'école nationale du jeu vidéo, à Angoulême, donc pour poursuivre ce lien entre les deux formations. Le troisième axe qu'on a, c'est d'apporter justement du lien entre la recherche universitaire et l'industrie du jeu vidéo. Et ce lien, on le fait à travers plusieurs leviers. Le premier, c'est d'organiser un colloque national pour l'instant et qu'on espère aller mener vers l'international. Un colloque pendant lequel on fait aussi intervenir, un peu à l'image de ce qui s'est passé aujourd'hui, à la fois des professionnels du jeu vidéo, mais également des chercheurs, experts dans leur domaine. On les fait parler d'une voix commune ou d'une voix avec... expliquer leur regard croisé sur une même thématique dans l'idée de provoquer des partenariats par la suite, ce qui a déjà été le cas avec nos premiers colloques. Un deuxième levier que nous avons, c'est pour des projets de recherche que nous proposons aux étudiants. Des projets de recherche qui peuvent venir de nos partenaires industriels, de nos partenaires chercheurs, d'autres universités aussi, d'associations et de proposer des sujets dans différentes disciplines. Et on a réussi, c'est la troisième année que la chaire existe et sur cette troisième année, on en est à notre 20e projet collaboratif fait par les étudiants, des projets qui sont menés sur une année. Et on a réussi à mener des sujets autour de la physique, de la mécanique, des mathématiques appliquées, de l'informatique, mais aussi des sciences humaines et sociales, dans beaucoup d'acceptations, dans l'économie et dans la biologie, puisque nous avons aussi un sujet cette année qui va traiter de biomes et justement d'interactions avec différents biomes, ce qui peut faire écho à des sujets qui ont été évoqués tout à l'heure dans les conférences. D'autres sujets qu'on a pu aborder à travers ces projets, c'est la génération procédurale de dialogue, génération de caustiques en temps réel, économie dans les jeux, MMORPG notamment, économie des joueurs, modélisation de sons de véhicules ou encore évaluation de troubles de l'attention par le jeu. Donc vous voyez beaucoup de champs disciplinaires, beaucoup d'expertises qui peuvent être mêlées, qui peuvent être creusées, qui peuvent être poussées. On a également, avant de partir sur une conclusion, parce que je vais aussi redonner la parole pour les tables de conférence, on accompagne aussi une thèse qui a commencé cette année pour réfléchir aux apprentissages qu'on développe au sein des lycéens lors d'ateliers de création de jeux vidéo. Donc voilà, vous voyez, pas mal de sujets qu'on accompagne et toute cette diversité de sujets abordés dans le département touche finalement l'écosystème dans lequel on s'est positionné. Les projets justement des étudiants dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'en ai évoqué quelques-uns, obtiennent un bel écho au sein de l'école et de l'institut dans sa globalité. Ils sont souvent primés donnent lieu à des publications qu'on retrouve aussi dans d'autres conférences scientifiques. Donc on espère à travers ça montrer justement le potentiel et la transversalité de ce média qu'est le jeu vidéo. Et à travers ça, on espère montrer tout ce qu'on peut encore explorer. On fait partie des gens, comme je pense vous tous ici, qui croient en ce média comme transmetteur de compréhension du monde avec lequel on interagit. Et on espère, comme le disait, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'on aura si on arrive à illustrer à travers les expériences ludiques qu'on saura créer, qu'on arrivera aussi à transformer la perception du monde et la manière dont on va interagir avec. Donc je conclus en disant que je suis ravie de ce partenariat, ravie de faire partie aussi de cette journée aujourd'hui et ravie aussi que la BPI donne autant de place aux jeux vidéo et j'espère encore plus pour étendre encore cette belle parole autour du jeu. Merci.